Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, 2 mois et demi de confinement et beaucoup de divorces en vue.
Les avocats spécialisés sont pris d'assaut. Enquête dès le début de ce journal. 6 milliards d'euros pour doper les salaires des soignants, mais derrière ce chiffre, encore beaucoup de questions. Et puis attention, si vous prenez les transports en Ile-de-France, le trafic du RER B est extrêmement perturbé aujourd'hui. C'est ce que signale à l'instant la RATP.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
11% des Français souhaitent prendre leur distance avec leur partenaire. Résultat d'un sondage IFOP qui montre qu'avec le confinement, les histoires d'amour finissent mal. Certains avaient prédit un baby-boom, ce sera plutôt un divorce-boom. La promiscuité, l'ennui ont eu raison de nombreux couples, Vincent Serrano.
Oui, 3 ans de mariage balayé en 2 mois seulement. C'est à peu de choses près le résumé que Paul fait de sa situation. Le confinement a eu un double effet sur sa vie de couple.
A dégradé puis accéléré les choses. Bien parler de divorce pendant le confinement, c'était la première quinzaine d'avril. Ça a été très difficile. Alors nous, entre guillemets, on a une chance, c'est qu'on est dans un appartement qui est plutôt relativement grand, où on a pu faire chambre à part, en gardant en plus une petite. Ça a été un calvaire.
Et il connaît beaucoup de monde autour de lui qui cherche aussi à divorcer.
Ah oui, moi je travaille avec des gens qui ont entre 25 et 60 ans. Bah, le fait que vous ayez plus cette respiration, ce troisième lieu qui est le travail, ça a posé beaucoup de problèmes. Ouais. Divorce, moi j'ai 2 personnes autour de moi et un jeune couple qui est en train de se séparer, ouais, à cause du confinement.
Un effet confinement qui n'a rien d'étonnant pour Maître Bettati, son avocate.
Au bout de 8 jours, 15 jours, déjà, on a commencé à voir un boom, 4-5 rendez-vous par jour. Créteil, à mon avis, c'est janvier-février, l'audience de conciliation. Paris, j'espère qu'on aura octobre-novembre. Mais de toute façon, il est clair que ceux qui n'auront pas réussi uniquement amiable vont passer 6 mois difficiles, là. Oui.
Paul croise donc les doigts pour que son divorce soit prononcé, au moins, il l'espère, avant la rentrée scolaire.
Vincent Serrano, 6 milliards d'euros, c'est l'argent que le gouvernement va mettre sur la table pour les soignants qui attendent une revalorisation de leur salaire. C'est la première fois que le gouvernement donne un chiffre depuis le début des concertations dans le cadre du Ségur de la Santé. Un chiffre et déjà des inquiétudes du côté des syndicats qui se demandent encore ce qu'il y a derrière ces 6 milliards, pour qui, combien, comment, beaucoup de questions, Anaïs Bouissou.
Ah oui, pour les détails, on repassera effectivement 6 milliards d'euros. Pourquoi faire? Pour qui précisément? Et aussi à quelle échéance? Toutes ces précisions n'ont pas encore été apportées. Cela dit, on peut déjà dessiner quelques contours à cette enveloppe. Ce sera 6 milliards d'euros, non pas pour les seuls hôpitaux du service public, mais pour tous les établissements de santé publics et privés. Ensuite, cet argent va servir à 3 choses dans les grandes lignes. 1. Augmenter les salaires. Les syndicats d'infirmiers et d'aides-soignants espèrent 300 euros de plus tout de suite. 2. Réviser les grilles de salaire pour la suite, pour permettre une meilleure évolution des carrières. Et 3, ce sont les primes, les petits plus pour encourager les soignants qui vont évoluer et être simplifiés.
Merci pour toutes ces précisions, Anaïs Bouissou. Le chômage partiel revu et corrigé, le dispositif actuel qui permet aux salariés de toucher 84% de leur net prendra fin en octobre. Ce sera après 72%, mais les entreprises pourront faire appel dès la semaine prochaine à un autre système, le chômage partiel longue durée, valable 2 ans, aux mêmes conditions qu'aujourd'hui, sous réserve d'un accord avec les représentants syndicaux.
RTL, 8h03, la pandémie dans le monde suit une tendance continue et préoccupante.
Ce sont très exactement les mots de l'OMS qui note une explosion de nouveaux cas, notamment aux États-Unis dans le sud du pays, sans compter tous ces foyers qui apparaissent régulièrement chez nous en Europe. Le bout du tunnel est encore loin. New York a décidé d'annuler son célèbre marathon qui devait se courir le 1er novembre. C'est une immense déception pour ce Français qui s'y rendait chaque année. Patrice Suljaz.
Ça fait plus de 20 ans que je cours et que j'accompagne ce marathon. Tout marathonien, New York, c'est le Graal, c'est le Magic Marathon, c'est l'Alpe d'Huez pour un cycliste, c'est la Coupe du Monde au Brésil pour un footballeur. Donc c'est le marathon à vivre dans la vie d'un marathonien. C'était le 50e anniversaire. C'est des mois et des mois d'efforts qui, en quelques minutes, sont effacés. L'annulation de tous les marathons depuis le début de l'année laissait penser que New York allait être annulé. On ne voyait pas comment ils allaient pouvoir le tenir. C'est à la fois dur sportivement, c'est dur financièrement aussi, parce que c'est des sacrifices pour certains, pour beaucoup. C'est le monde entier qui est à New York. Donc, voir cet événement annulé, c'est une double déception. C'est la déception sportive et c'est la déception d'un rêve qui s'écroule. Parce qu'aujourd'hui, on était préparé pour y aller. Peut-être demain, l'année prochaine, dans deux ans, peut-être qu'on ne sera pas dans les mêmes conditions.
Patrice Huljaz de l'agence France Marathon, il répondait à Nicolas Georgerot. Attendez-vous à des perturbations dans le RER B aujourd'hui. Attention, hein, si vous circulez en Ile-de-France sur la ligne B, donc un train a déraillé hier soir du côté de Denfert-Rochereau sans faire de blessés. Il ne transportait pas de voyageurs. La RATP alerte à l'instant sur cette circulation extrêmement perturbée aujourd'hui et demain à minima. Et puis, si vous circulez en voiture, sachez que seuls les véhicules munis d'une vignette critère de 0 à 2 pourront circuler en raison d'un pic de pollution.
8h05, dans un instant, bientôt la fin du silence pour les riverains de l'aéroport d'Orly.
Pour la sieste de ma fille, c'était sympa. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on s'est déjà préparé psychologiquement.
Demain, les vols reprennent, c'est un événement. Reportage dans un instant sur notre radio. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi. Arriba. RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Les avions sont donc de retour à Orly, Jérôme.
Après 3 mois de sommeil forcé, l'aéroport va reprendre du service demain matin. Premier vol, 6h. Les voisins vont devoir se réhabituer au bruit. Il faut dire que la vie a changé ces derniers mois. Hortense Crépin est allée y promener son micro.
Elle est bonne ? Elle est un peu froide.
Au milieu de son jardin, Mas s'apprête à entrer dans une piscine gonflable et dans le ciel.
Pas de bruit, ça fait du bien, on est au silence là, total.
Elle n'a jamais autant profité de sa maison depuis l'arrêt des vols à Orly.
Franchement, on revit, ça fait que du bien de pas entendre les avions, les moteurs. Profiter de faire la sieste dehors, de s'installer avec une couverture, faire de la lecture aussi. On peut se concentrer sur un bouquin.
Même constat pour Véronique, elle vit ici depuis 22 ans.
On entend maintenant tout ce qu'on n'entendait plus avant, les oiseaux, enfin, la nature s'est réveillée. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable que ces avions, hein, que ces gros oiseaux.
L'heure est donc au dernier moment de calme avant le retour du vacarme dans le ciel.
Niveau sonore, oui, c'était des vacances, clairement.
Loïc a multiplié les déjeuners dans le jardin.
Pour la sieste de ma fille, c'était sympa. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on s'est déjà préparé psychologiquement.
Mais Loïc devrait pouvoir laisser ses fenêtres ouvertes ces prochains jours. La reprise des vols à Orly sera progressive. Demain, un peu plus de 10% du trafic habituel sera assuré.
C'était un reportage d'Hortense Crépin. Bayer veut tourner la page des plus de 100 000 litiges autour notamment du Roundup aux États-Unis, ce désherbant à base de glyphosate. Le laboratoire allemand qui a racheté Monsanto va verser 11 milliards de dollars aux plaignants. En France, le fabricant de viande Elivia rappelle 6 tonnes de steak haché qui avaient été commercialisées entre le 17 et le 19 juin chez Auchan, Carrefour, Aldi, Cora, Leclerc, Casino, Système U et Lidl. Il pourrait y avoir des traces de métal. Ces steaks ont été fabriqués dans l'usine de Vitry-le-François, dans la Marne.
RTL, municipal 2020.
On vote dimanche dans près de 5000 communes pour le second tour des élections municipales.
Direction Orléans, ce matin, où 3 candidats s'affrontent. 2 candidats de droite, parmi lesquels le maire sortant, et un écologiste. Orléans, désert médical. On peut dire que ça a été le thème de cette campagne, Christian Panvert.
La région manque cruellement de médecins. On en compterait 77 pour 100 000 habitants en moyenne, contre 93 au niveau national. Orléans subit le phénomène de plein fouet. J'ai rencontré Thibault, ORL, ravi que le sujet reste un des thèmes de la campagne du second tour.
Le manque des médecins, c'est quelque chose sur lequel les politiques peuvent avoir la main, peuvent travailler pour que plus tard, les choses ne se dégradent pas encore.
Le maire sortant, Olivier Carré, soutenu par La République En Marche, en fait une de ses priorités.
Il faut impérativement qu'à la fin de notre mandat, chaque Orléanais ait un médecin référent.
Mais la Covid-19 est passée par là, et maintenant, pour faire face à la crise économique, il annonce un plan d'urgence.
Aujourd'hui, les entreprises du bâtiment, qui sont les gros employeurs, ont des carnets de commandes jusqu'à la fin de l'année. Mais 2021, pour eux, c'est un immense point d'interrogation. Bah, à nous d'accélérer des programmes qui vont justement leur permettre de trouver du boulot.
Dans la profession de foi de l'ancien maire, Les Républicains, Serge Grouard, la santé arrive en pole position.
Cela reste une priorité fondamentale.
Pour faire face à la crise, il rajoute aussi des mesures exceptionnelles.
D'aide, de soutien financier, individualisé pour chacune et chacun pour répondre aux besoins spécifiques. L'objectif, au fond, c'est d'éviter que nos compatriotes orléanais ne tombent dans le chômage et donc dans la précarité et les drames qui s'ensuivent.
Jean-Philippe Grand représente l'union de la gauche et des écologistes. Il veut favoriser la délégation de tâches.
Les médecins aujourd'hui le font déjà dans un certain nombre de villes en France. Ils délèguent à des infirmières la possibilité de faire un certain nombre d'actes de soins. Aujourd'hui, c'est ce qui permettra de faire face justement à cette pénurie de médecins. On ne va pas trouver 50 médecins comme ça, tout le monde en cherche, on ne va pas les trouver du jour au lendemain.
Il souhaite aussi créer un centre municipal de santé avec des médecins salariés par la ville.
Reportage de Christian Panvert.
L'histoire du jour, pour
oui,
terminer.
Je vous la donne. Vous savez sans doute ce qu'est un terril. On en voit beaucoup dans le Nord. C'est une accumulation de résidus miniers. Voilà. Et ces terrils sont devenus, avec le temps, parfois des lieux de promenade. Quelle ne fut pas la surprise de ce couple lorsqu'il a aperçu un homme nu en train de photographier son intimité avec son téléphone. Oui. Il s'agissait d'un chauffeur routier polonais profondément ivre. Aux policiers qui l'ont interpellé, il expliquait qu'il envoyait des photos à sa douce, oui. Chacun son truc. En tout cas, voilà, au moins un couple qui aura résisté au confinement.
Ben, c'était le journal de Jérôme Florin. Notre détour quotidien dans un petit coin de paradis maintenant. On part tout de suite retrouver Denis Grandjoux. Bonjour Denis.
Bonjour Yves.
Cap sur la Dordogne pour l'été, une étape qui ressemble aujourd'hui à un véritable voyage dans le temps. Il y a 20 000 ans, chez l'homme de Cro-Magnon, nous partons dans le village de Montignac où a été construite la réplique exacte de la grotte de Lascaux, découverte en 1940. La grotte originale a été fermée, vous le savez, au public en 1963 pour éviter que les peintures sur la roche ne soient abîmées pour la respiration humaine. Mais cette nouvelle grotte inaugurée il y a 2 ans, c'est véritablement sa sœur jumelle.
Ah oui, c'est sûr, avec une précision au 16e de millimètre pour reconstituer chaque dessin, chaque aspérité de la grotte. Il a fallu 2 ans d'un travail impressionnant. Cela, il faut ajouter la même température que dans la grotte originelle, soit 16 degrés, le même éclairage. C'est totalement bluffant de vérité. Et Alexandra, une des guides passionnées et passionnantes de ce lieu, ne me démentira pas pour cette visite guidée.
Nous sommes juste à l'entrée de la grotte avec une vision formidable sur l'architecture naturelle de la grotte qui est déjà exceptionnelle. Nous avons face à nous la première salle qui est la salle des taureaux. On a une vision périphérique permanente, une ronde presque aérienne, vertigineuse avec tous ces animaux.
C'est vrai que c'est très spectaculaire parce que là on est vraiment, on voit la paroi qui se rétrécit.
Absolument.
On est vraiment, c'est un peu, il y a un petit côté aventure en fait dans cette découverte.
Oui, c'est ça. Alors il y a un côté progressif. Hein. Cette grotte de Lascaux est un travail de clan.
Continue d'avancer. Là on voit au-dessus de nous
des vaches, donc c'est des aurochs femelles. Si par contre on a une figure qu'on appelle le taureau au trident, qui est splendide. Ces animaux forment une sorte de communication. Quelque chose qui nous échappe est écrit sur ces parois.
Les artistes de l'époque, s'ils rentraient aujourd'hui dans cette grotte, ils diraient mais c'est notre grotte.
Oui, ils pourraient, oui. Oui, parce que la précision est extrême. Donc l'éclairage serait sensiblement le même. J'ai une lumière vacillante qui va passer comme une bougie de l'ombre à la lumière et qui va donner vie à ces animaux qui nous entourent.
Le visiteur peut vraiment découvrir à son rythme.
Absolument.
Les peintures rupestres ou quoi.
Absolument. 50 minutes à 1 heure. Si on veut faire correctement le musée, il nous faut entre la grotte et le musée entre 2h30 à 3h.
Et ces animaux, Yves, on peut en trouver plus de 2000 sur les parois, c'est extraordinaire.
Cette grotte de Lascaux reconstituée porte donc finalement les mêmes mystères que la grotte originale, Denis.
Oui, c'est fou. D'ailleurs, des chercheurs viennent ici pour étudier les peintures. C'est vous dire l'incroyable précision dont on parlait de la reconstitution. Effectivement, les mystères demeurent dans celui d'une scène découverte dans le puits de la grotte de Lascaux lors de sa découverte et que l'on peut bien sûr également découvrir nous-mêmes.
La seule scène monochrome de la grotte de Lascaux, entièrement noire, avec au centre un homme schématisé en bâton, 4 doigts à chaque main, et il a une tête d'oiseau. La seule scène qui semble nous raconter quelque chose. Mais quoi ? Ça reste aujourd'hui un mystère. Trouvez-y votre propre signification, élaborez peut-être votre propre théorie. C'est peut-être vous, au final, qui aurez la bonne réponse.
Alors Yves, une dernière question. Est-ce que vous savez d'où vient le mot Cro-Magnon ?
Mais pas du tout.
Eh bien, c'est du patois, du Périgord. Ah. Cro, ça veut dire la grotte, le trou. Et Magnon, tout simplement parce que la grotte, en 1940, a été découverte dans la famille de Monsieur Magnon. Donc Cro-Magnon, si ça avait été chez vous, ça aurait été Cro-Calvi.
J'ai bien compris, oui. Merci beaucoup, Denis Grandjoux. On apprend plein de choses. Et c'était...